7-9.
Bienvenue sur France Inter, nous sommes le mercredi 2 février. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, les visages réapparaissent dans les rues. La fin du masque obligatoire en extérieur et des jauges. Allègement des restrictions à partir d'aujourd'hui. On les détaille, Anaïs, dans un instant, après les autres titres.
Nous serons en Lituanie où un mur se construit à la frontière européenne pour se protéger des migrants. Emmanuel Macron, président du Conseil de l'Union européenne, s'empare du sujet ce soir à Tourcoing, le non encore candidat laboure le terrain. Dans ce journal aussi, la cellule Déméter vidée de sa substance par le tribunal administratif et un film sur les marches de la société américaine Red Rocket sur nos écrans aujourd'hui.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous, Léa Salamé.
Oui Nicolas, La Fontaine, Pascal, Baudelaire et toujours Céline évidemment. Fabrice Luchini revient célébrer ses grands auteurs dans un nouveau spectacle inspiré du confinement. C'est au Théâtre des Mathurins, on y était hier soir, c'était formidable. Fabrice Luchini sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera Léa à 8h20 pour le grand entretien de la matinale en forme de table ronde sur le Mali, l'Ukraine et plus largement le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron. Invité Michel Duclos, Isabelle Lasserre, Benjamin Haddad et vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'était une promesse du gouvernement, c'est une décision qui divise. Alors que la situation sanitaire est toujours tendue en France, ceux qui pensent qu'on en aurait fini avec l'épidémie, c'est faux, dit d'ailleurs Emmanuel Macron ce matin. Toujours 250 morts du Covid en moyenne chaque jour et des hospitalisations en hausse. Eh bien, les contraintes du quotidien se desserrent. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour, bonjour à tous.
On voit avec vous les principaux changements.
Plus besoin de marcher dans la rue en se demandant si dans telle ou telle zone il faut ou non porter le masque. Pas de question à se poser. Dès aujourd'hui, il n'est plus obligatoire en extérieur. On peut donc respirer partout en France à l'air libre. C'est également l'heure du soulagement pour les clubs de sport ou encore les patrons des salles de spectacle. Les grands lieux recevant du public assis peuvent à nouveau fonctionner à pleine capacité sans limite de spectateurs à accueillir. Cela concerne notamment les stades ou encore les salles de théâtre. Les grands rassemblements étaient jusque-là limités à 2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur. En revanche, le port du masque reste exigé pour les spectateurs. Enfin, plus d'obligation d'être au moins 3 jours par semaine en télétravail. Cette restriction disparaît. Néanmoins, étant donné la situation sanitaire encore tendue, il est vivement recommandé par le gouvernement.
Oui, situation tendue, mais le gouvernement n'avait pas conditionné la levée de ces restrictions à l'évolution de la situation. Et alors, qu'en est-il pour les boîtes de nuit ?
Alors là, un peu de patience. Pour ça, il faut attendre encore 2 semaines. Le 16 février date de la deuxième étape de l'allègement des restrictions sanitaires. Les discothèques rouvriront, les concerts debout seront autorisés. Il sera également possible de consommer debout dans les bars et puis de manger ou de boire librement dans les cinémas ou encore les transports.
Toutes ces infos sur l'allègement des restrictions, c'est en détail sur franceinter.fr. Plus de jauge dans les stades, vous nous le disiez Luc. C'est un bol d'air pour les clubs sportifs. Ils vont pouvoir vendre 100% de leurs places. Passe vaccinale toutefois exigée. Mais après une saison économique éprouvante, Fanny Lechevestrier, c'est un vrai soulagement.
Un soulagement car le manque à gagner ces dernières semaines a encore été important. Le président du club de rugby de Clermont, Jean-Michel Guillon, estime ainsi les pertes entre 300 000 et 400 000 euros par match.
Oui, alors c'est un soulagement pas encore complet parce que nous avons une capacité de 19 000 personnes et nous ne pourrons recevoir qu'un maximum de 15 600 personnes parce que nous avons des places debout, donc on n'est pas encore dans une ouverture complète.
Autre contrainte, la consommation de boissons et de nourriture toujours interdite debout. Il faut donc encore s'adapter pour faire vivre les buvettes. Mais pour Jean-Michel Guillon, tous ces coups d'arrêt et restrictions ont finalement poussé les clubs à se réinventer pour reconquérir leur public.
Ça nous oblige à nous dire comment faire revenir aussi de nouveaux spectateurs, public plus féminin, des familles. Tout ça nous amène à organiser autour du match un certain nombre d'attractions qui nous permettront demain d'améliorer à la fois la mixité dans notre public, mais aussi d'améliorer l'expérience de tous nos spectateurs. Nous espérons qu'ils viendront plus tôt et qu'ils repartiront plus tard du stade.
L'ASM, depuis le début de la crise, il y a 2 ans, entre les huis clos et les jauges, a perdu 15% de son public.
Aux États-Unis, Pfizer va demander en urgence l'autorisation de son vaccin pour les très jeunes enfants de 6 mois à 4 ans. Il se ferait en 3 injections, 10 fois moins dosées que pour les adultes. Alors que le sous-variant d'Omicron BA2 est désormais présent dans 57 pays selon l'OMS, sous-variant plus contagieux que l'original selon les premières données.
France Inter 7h05, critique cinglante de la Fondation Abbé Pierre, Anaïs, contre le quinquennat Macron.
Le logement n'a jamais été une priorité de cet exécutif, dit la Fondation qui publie aujourd'hui son rapport annuel. Réforme des APL qui a fait surtout des perdants. Pas assez de logements sociaux, 100 000 alors qu'il en faudrait 150 000. Autre inquiétude de la Fondation, la progression incontrôlée du prix des logements. On détaille tout ça à 8h. Emmanuel Macron répondra par vidéo cet après-midi lors de la présentation du rapport. Car il sera toute la journée dans le bassin minier du Pas-de-Calais avec une bonne nouvelle annoncée en même temps par l'Élysée et le Conseil régional des Hauts-de-France. L'implantation de la 3e giga-usine de batterie automobile à Dunkerque, celle de la start-up grenobloise Verkor, soutenue par Renault, 1200 emplois créés à terme. Le chef d'État, pas encore candidat malgré sa course en tête au premier parrainage rendu public par le Conseil constitutionnel. Il fait durer le vrai faux suspense. Le temps de sa candidature n'est pas encore venu, dit-il à La Voix du Nord. Mais il occupe donc le terrain avec une journée savamment construite pour y distiller symboles et messages politiques, Simon Le Baron.
Un concentré de communication macronienne. Le Louvre, où il avait célébré sa victoire il y a 5 ans. Mais le Louvre Lens, construit sur la mine et que le chef de l'État va visiter avec des collégiens et des lycéens. Emmanuel Macron veut capitaliser sur le passé de ce bassin minier, longtemps dominé par la gauche, mais aussi sur l'avenir de cette terre frappée par le chômage qui a placé Marine Le Pen en tête en 2017. C'est pour cela qu'il rendra hommage aux 42 mineurs morts à Liévin en 1974 et qu'il annonce déjà 200 millions d'euros de subventions pour la voirie, les équipements publics. Le président entend montrer à cet électorat, courageux et travailleur, dit-il dans La Voix du Nord, qu'il ne l'oublie pas. Puis viendra la séquence régalienne et internationale à Tourcoing, immigration et réforme de Schengen, au menu avec les ministres européens de l'Intérieur. Emmanuel Macron sera seul à décider quand il entrera en campagne. En attendant, président de la République, président du Conseil de l'UE et presque candidat, il n'hésite pas à superposer les costumes.
Et sur le pacte migratoire européen, Emmanuel Macron, dans un discours depuis Tourcoing ce soir, va proposer entre autres un mécanisme de solidarité d'urgence en cas d'arrivée massive à une frontière avec des renforts des pays voisins. Ça résonnera sans doute en Lituanie, ce petit pays balte aux confins de l'Union s'est retrouvé bien seul face à la vague migratoire orchestrée par la Biélorussie. 4000 demandeurs d'asile d'un coup, c'était 50 fois plus qu'en 2020. Vilnius n'a pas hésité à violer la Convention de Genève en refoulant la plupart de ses déplacés et depuis a entrepris de construire un mur le long des 700 km de frontière. Reportage de nos envoyés spéciaux Christophe Papon et Thibault Lefebvre.
N'appelez surtout pas ça un mur.
Non, ce n'est pas un mur hermétique, c'est juste un moyen pour se protéger. C'est une barrière.
Une barrière physique, selon les éléments de langage des autorités lituaniennes répétés par le superviseur du chantier, Davidas Grigaravičius. Une barrière donc de 4 mètres de haut, avec à son sommet et à sa base des rouleaux de fil barbelé tranchant.
C'est un projet d'intérêt national. C'est un honneur d'y contribuer. C'est même plus qu'un projet, c'est un devoir.
Un devoir partagé avec les centaines de policiers, de gardes frontières et d'employés de l'Agence européenne des migrations, Frontex, sur le terrain depuis l'été dernier. Car les 27 soutiennent la Lituanie avec des moyens humains et matériels. Pas question en revanche de participer à la construction d'un mur qui est loin de faire l'unanimité parmi tous les membres. Arnoldas Abramavičius est le vice-ministre de l'Intérieur lituanien.
Ne soyez pas naïfs, la situation géopolitique nous oblige à changer notre approche sur la manière de gérer les frontières.
Ce qui ne change pas en revanche, ce sont les tentatives de traversée. Malgré le nouveau dispositif, depuis 3 mois, 45 migrants et demandeurs d'asile ont été aidés ou recueillis par les ONG locales.
Thibault Lefebvre et Christophe Papon en Lituanie. La France se donne 2 semaines pour trancher sur son avenir militaire au Mali. 9 ans de présence mais désormais indésirable par la junte au pouvoir. Et la très grande inquiétude ce matin de l'Union africaine Sahel, après une nouvelle tentative de coup d'État, cette fois en Guinée-Bissau, fusillade à laquelle a échappé le président, mais qui aurait fait plusieurs morts. Catastrophe écologique en Équateur, du pétrole brut empoisonne lentement la jungle depuis qu'un oléoduc s'est percé en pleine Amazonie. L'Équateur, dont la capitale Quito vient de vivre un cauchemar, 17 heures de pluie diluvienne non-stop, un bassin de rétention s'est rompu, provoquant un torrent violent dans une avenue de la capitale. Bilan, plus d'une quarantaine de morts et disparus.
Il est 7h10, Anaïs, c'est un vrai soulagement pour les associations environnementales.
Elles pourront continuer à critiquer le modèle agricole dominant sans en être empêchées par la cellule de gendarmerie Déméter, cellule mise en place par le ministère de l'Intérieur avec la FNSEA dans le but de lutter contre l'agribashing. Le tribunal administratif a demandé hier au gouvernement de faire cesser toutes les activités qui visent à surveiller les ONG. L214 estimait que Déméter portait atteinte à la liberté d'expression. L'association a été entendue, estime sa cofondatrice Brigitte Gauthière.
Nous, ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est un grand soulagement par rapport à la liberté d'expression, puisque cette cellule Déméter nous faisait une épée au-dessus de la tête avec une mise sous surveillance accrue. On l'a vu sur certains exemples des gendarmes qui se déplacent sur des petites assos qui critiquent justement le modèle agricole et alimentaire actuel. Effectivement, on était en face d'une vraie proposition de censure. C'est aussi un frein qui se retire justement sur l'ensemble des lanceurs d'alerte. Donc oui, on est soulagé. Aujourd'hui, on peut continuer de revendiquer une organisation différente, sortir de l'élevage intensif, réduire la consommation de viande sans être finalement traité en criminel.
Brigitte Gauthier de L214 avec Célia Quilleray. Cronenbourg se félicite de la décision des prud'hommes de Saverne. L'ouvrier qui avait cumulé 177 contrats courts pendant près de 30 ans chez le brasseur a été débouté. La discrimination à l'embauche n'a pas non plus été reconnue. La face poisseuse des États-Unis à l'affiche au cinéma aujourd'hui, Red Rocket, primé au Festival de Deauville, nous emmène loin des villas californiennes ensoleillées. Ici, Alexis de Meyer, on suit l'histoire d'un acteur porno ruiné qui se réfugie dans son Texas natal pour se refaire une santé.
Après avoir filmé la communauté trans de LA dans Tangerine, puis des enfants livrés à eux-mêmes dans Florida Project, Sean Baker poursuit son exploration des marges en posant sa caméra dans une ville industrielle, symbole de l'Amérique de Trump. Laissant derrière lui ses années de gloire dans l'industrie du X, Mikey retrouve le Texas profond de sa jeunesse, gangréné par le chômage et la toxicomanie. Pour accéder au rêve américain, les jeunes de Texas City n'ont qu'une solution, partir loin et vite. Alors Mikey propose à Strawberry, une jeune fille de 17 ans avec qui il entretient une relation, de faire d'elle une star du porno. Dans cette version trash de Lolita, Sean Baker met la lumière sur un personnage immoral.
C'est totalement un anti-héros et on n'en voit pas beaucoup ces temps-ci, tout particulièrement dans le cinéma américain. C'est sans doute parce qu'il nous effraie. Mais je pense qu'il y a malgré tout une place pour eux parce qu'on a beaucoup à apprendre de ce genre de personnage. Je pense que les anti-héros sont fascinants.
Les péripéties tragicomiques des personnages sont superbement filmées, les couleurs acidulées provoquant un contraste saisissant avec ce portrait bien glauque de l'Amérique pauvre.
Allez, on se remonte le moral. Les JO, c'est maintenant. Et oui, Nicolas, le curling lance la compétition à Pékin 2 jours avant la cérémonie d'ouverture.
Merci Anaïs Feugat. Le zoom dans 3 minutes aujourd'hui sur l'endométriose. Le début de la fin d'un tabou.